France Culture.
L'industrie aussi est sur le pied de guerre depuis les tensions entre Donald Trump et Vladimir Zelensky du 28 février dernier. Les valeurs boursières des poids lourds de la défense européenne se sont envolées. Depuis, les déclarations se sont enchaînées. Les dirigeants européens ont assuré l'Ukraine de leur soutien, notamment en termes de logistique et de défense. Or, pour certains fleurons, production civile et production militaire représentent les deux jambes de leur activité. C'est le cas notamment d'Airbus qui pourrait être porté par ces circonstances particulières. Dynamique, mais qui, surtout indépendamment de cela, a affiché une très bonne santé le 20 février dernier, portée essentiellement par son aviation civile et commerciale. Or, à l'heure où résister passe aussi par renforcer sa compétitivité afin de tenir tête économiquement et industriellement aux États-Unis, l'idée de champion européen fait plus que jamais tourner les têtes. Airbus représente de ce point de vue un exemple du genre, à la fois à l'échelle européenne mais aussi locale, en unissant les capacités de production aéronautique des pays de l'Union européenne, mais aussi en concentrant ses chaînes d'assemblage dans la région toulousaine, à proximité de tout un tissu de fournisseurs, l'entreprise entend montrer que l'Union fait la force. Et de fait, en 40 ans, la filière aérospatiale est passée de 17 000 à 81 000 salariés à Toulouse et ses environs. Alors comment a émergé le modèle Airbus et pourrait-il aujourd'hui servir à nouveau d'exemple à suivre pour réindustrialiser au niveau européen? Pour le savoir, entendez-vous l'écho s'envole aujourd'hui vers Toulouse et sa région, où constructeurs et fournisseurs dessinent les contours d'une industrie qui entend s'émanciper des troubles conjoncturels, mais qui est aussi rattrapée par une forme d'urgence, celle de la transition écologique. L'Occitanie est aujourd'hui au cœur de l'Europe dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Clara Galivelle, et Wissam Elkayer qui assure la liaison depuis les studios d'ici à Toulouse justement. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Gabriel Coltis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'université de Toulouse Capitole, Toulouse où vous vous trouvez actuellement avec nous à distance donc. Et Olivier Jamme, vous êtes avec nous en studio. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Usine Nouvelle et spécialiste donc de l'aéronautique, ce qui va être particulièrement pratique aujourd'hui. Olivier Jamme, nous avons selon la plupart pour la plupart des dirigeants européens, nous sommes entrés dans une ère nouvelle, celle qui implique de très lourds investissements dans la défense. Et depuis que les États-Unis ont marqué une forme de désinvestissement vis-à-vis de l'Ukraine, on le disait, on a vu que les actions des entreprises de défense et d'armement avaient enregistré de très fortes hausses, sont généralement citées Thales, Dassault Aviation, mais aussi, dans une moindre mesure, mais une mesure tout de même, Airbus, qui a vu sa valorisation augmenter de 5% le fameux week-end du 1er et 2 mars. Alors la période est-elle réellement propice pour une structure comme Airbus, Olivier Jamme?
Oui, indubitablement. Avant de parler du cas d'Airbus en particulier, l'environnement actuel, c'est-à-dire la hausse des dépenses militaires qui est déjà enclenchée et qui est également à venir dans les prochaines années, va évidemment bénéficier à tous les grands noms. Vous avez cité un certain nombre de Français. On peut parler du suédois Saab, de l'italien Leonardo, de l'allemand Rheinmetall. Bon, on voit tout pour tous. Hein. J'avais regardé la semaine dernière pour tous une envolée effectivement du cours de la bourse pour chacun de ces grands groupes. Alors, ils sont quand même prudents, ces grands groupes. Ils ont déjà, depuis l'invasion en Ukraine en 2022, pour la plupart d'ailleurs, augmenté les cadences de production. En revanche, là, pour ce qui est des années à venir, pour ce qui est des discours qui ont été faits par un certain nombre de dirigeants politiques européens, ils attendent encore les commandes. Et il y a dans le milieu de la défense, un monde entre on va augmenter un budget et les discours politiques et des contrats en bonne et due forme, de l'argent sonnant et trébuchant. Donc c'est vrai qu'on voit notamment la semaine dernière le président de la Commission européenne qui dégaine un plan de 800 milliards. Donc les industriels disent « Ok, nous on est là, mais on attend de voir » parce qu'une fois qu'on dit ça, « Ok, mais auprès de qui on le répartit ?» Sachant que chaque pays européen a quand même en général plutôt tendance à vouloir flécher cet argent vers ses propres champions. Et puis on va y venir aussi, mais il y a un certain nombre de freins au sein de la chaîne de fournisseurs. Voilà, un certain nombre d'éléments qui font qu'entre ces discours musclés qui sont légitimes et la réalité industrielle, il y a un certain délai de latence.
Olivier Jamm, on a parlé effectivement de Français comme Thales et Dassault Aviation. Peut-être que le lien est relativement évident avec le secteur de la défense et de l'armement pour ces groupes-là. Peut-être un peu moins pour Airbus. Ce qu'il faut dire, c'est que Airbus, ce n'est pas un gros groupe uniforme qui est spécialisé uniquement dans les avions de transport de passagers. On va dire qu'on connaît peut-être plus spontanément. Il faut faire une distinction entre différentes branches d'Airbus. Dans quelle mesure Airbus, en se spécialisant, en différenciant ses activités, peut être concerné de fait par cette ambiance de réarmement?
Alors, pour être très très factuel, Airbus, effectivement, quand on dit Airbus, on pense un peu plus avion civil, sur un chiffre d'affaires qui a été donné cette année à, alors je regarde un petit peu parce que j'ai pas tout en tête, 70 milliards, pour faire simple, il y a 50 milliards de chiffre d'affaires dans le civil, 12 pour la défense. Donc ça, quand même, ça reste une petite part quand même, hein. C'est 12 donc sur 70, en hausse par ailleurs de 5%. Airbus dans la défense, on va pas faire dresser le catalogue de tout ce que fait le groupe, mais en gros c'est évidemment la 400M, l'avion militaire A400M, qui est un petit peu en mal de commande en ce moment et pour lequel le groupe craint de devoir arrêter la production en 2028, il n'y a pas plus de commandes. C'est aussi l'avion ravitailleur, le 310 MRTT, et puis l'Eurofighter Typhoon, qui est fait avec un certain nombre d'autres industriels européens. Donc voilà, ça c'est les principaux produits. Bon, j'en oublie, hein, les puristes vont me dire que j'oublie tout un tas de choses, mais voilà, en gros, pour les équipements les plus importants, ce sont bien ceux-là, oui.
Et en tout cas, ça nous montre bien tout de même qu'il y a plusieurs branches à distinguer au sein de ce vaste groupe qu'est Airbus.
Et pardon, et la branche, oh là là, la branche hélicoptère, donc elle qui est basée à Marignane. Et puis pour finir vraiment de répondre à votre question, la branche défense, c'est plutôt en Allemagne que ça se passe, du côté de Munich notamment.
Et du reste, c'est là que se trouve le siège, hein, Airbus, de cette branche-là de la défense au sein du groupe Airbus. Une autre entreprise s'y distinguée récemment, c'est Hensoldt, surnommée par les échos de Petit Thalès Germany, qui est spécialiste des capteurs et des radars. Or, ce qui est intéressant, c'est que Hensoldt est né en 2017 de la vente des activités d'une des divisions d'Airbus spécialisée dans l'électronique militaire et dont l'action de fait a suivi ce mouvement général. Son action a terminé le lundi 3 mars en hausse de 22,2%, ce qui est considérable. Très concrètement, Gabriel Coltis, quand on entend ça, une petite entreprise qui est née d'une vente finalement au découpage d'une partie d'Airbus qui aujourd'hui profite de la conjoncture actuelle, on n'a pas envie de se demander ce qu'il reste de l'activité militaire d'Airbus. On l'entendait à l'instant, c'est une partie relativement faible de son chiffre d'affaires. Est-ce que c'est pour autant une branche qui est délaissée aujourd'hui, Gabriel Coltis?
Alors, je ne crois pas que ce soit une branche qui est délaissée, hein, même si effectivement certains produits de l'armement, comme la 400M, Olivier l'a dit tout à l'heure, sont en mal de commande. Hein. Mais ce que je pense, c'est que globalement, on va dire que Airbus c'est plutôt un groupe industriel qui est centré sur les activités civiles, avec une activité militaire un peu complémentaire en quelque sorte. Hein. Et cette complémentarité, ne joue pas avec la même importance, la même intensité chez Boeing. Hein. Boeing est un groupe qui fonctionne effectivement sur deux jambes, une jambe civile, une jambe militaire. Dans le cas d'Airbus, on a bien sûr une jambe très musclée qui est Airbus Industrie, qui fabrique les avions. Mais comme ça a été dit à l'instant, eh bien, à côté des avions, il y a aussi les hélicoptères, les activités spatiales, l'armement au sens large et encore bien d'autres activités. Alors, dans la vie d'un groupe, il est assez courant que on procède à des rectifications de frontières, hein, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire qu'à certains moments, il y a un certain nombre de projets, de produits qui intéressent moins, et à ce moment-là, on va les vendre. Et puis, en même temps ou plus tard, on va procéder aussi à des acquisitions. Donc, il est tout à fait normal qu'un groupe dont la culture est très centrée sur les questions de coordination, on va sans doute en parler, que ce groupe vive et achète de temps en temps des entreprises, des activités et parfois en vende. Donc le fait qu'une activité militaire ait été vendue il y a quelques temps de cela ne surprend pas, c'est tout à fait normal dans la vie d'un groupe.
Et puis, il y a une autre dimension très importante lorsqu'on parle d'Airbus. Gabriel Coltis, on l'a dit, il y a ces fameuses trois branches. Et puis, il y a une autre caractéristique majeure, c'est que finalement, ont participé à sa fondation différents pays européens et qui participent toujours, de fait, à la fois à son organisation, mais aussi à son capital. Le 7 mars dernier, Michael Schulhorn, donc le patron de la branche militaire d'Airbus, celle qui est située, on l'a dit, en Allemagne, a appelé dans le quotidien régional Augsburger Allgemeine à ne pas se fournir aux États-Unis en termes de défense et d'armement. Il a vanté les mérites notamment de l'Eurofighter qui a été qualifié d'épine dorsale de l'armée de l'air. Or, ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est qu'on a l'impression, on a l'espoir peut-être aussi qu'Airbus incarne une nouvelle forme de souveraineté européenne, puisqu'on l'a dit, il y a certes cet enjeu de guerre armée, mais il y a aussi un véritable enjeu de compétitivité aujourd'hui pour l'Europe. Or, le Royaume-Uni a commandé des satellites espions le 10 février dernier à Airbus Defence and Space pour environ 158 millions d'euros. De son côté, Donald Tusk envisagerait une entrée de la Pologne au capital du groupe européen aux côtés des trois fondateurs, à savoir la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et il envisage d'acheter un certain nombre d'appareils à Airbus. Concrètement, Gabriel Coltis, est-ce que les circonstances actuelles pourraient redéfinir le système de gouvernance d'Airbus et de fait le réimposer en tant que champion européen en accentuant la dimension européenne de sa gouvernance?
Alors, dans ce que vous venez de dire, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une première chose qui est effectivement la question tout à fait centrale dans le domaine militaire et d'ailleurs dans le domaine civil aussi, qui est la question de l'attribution des marchés publics. Donc effectivement, dans un pays comme les États-Unis, vos éditeurs et vous-même savez qu'il y a une disposition qu'on appelle le Buy American Act, donc qui est une loi qui oblige en principe les administrations américaines et donc l'administration de la défense également, bien sûr, à acheter des matériels produits sur le sol américain. Donc il n'y a pas d'équivalent pour l'instant, ou il n'y avait pas d'équivalent pour l'Europe, mais vous avez peut-être vu que la doctrine de la Commission européenne évolue en ce sens, puisque effectivement il est fortement question maintenant de mettre en place un European Act qui obligerait les administrations en Europe à acheter du matériel européen. On ne peut que s'en féliciter, à la fois en termes économiques et en termes géopolitique. Donc ça, c'est un élément. Un autre élément de réponse, c'est que vous avez rappelé très, très justement que Airbus, autrefois EADS, a une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'une convergence des industries aéronautiques européennes. On pourrait en parler pendant toute l'émission, mais je vais insister peut-être sur un point, c'est que, de fait, le point le plus fort, sans doute, des activités d'Airbus réside moins dans ses capacités technologiques en elles-mêmes que dans sa très grande capacité de coordination. Airbus, c'est le résultat, comme je viens de le dire à l'instant, d'une convergence d'un certain nombre d'industries aéronautiques en Europe. Et donc, la question de la coordination est en fait inséparable de l'organisation, de l'histoire et de l'organisation d'Airbus. Et si aujourd'hui Airbus a un point fort, eh bien ce point fort réside dans sa capacité à coordonner tout un ensemble d'activités qui sont éparses, et on va sans doute en parler quand on va parler de ses sous-traitants, de ses fournisseurs, de ses équipementiers. C'est véritablement le point central, et je pense que ça, c'est un avantage énorme qu'Airbus a sur Boeing en particulier.
On va revenir effectivement sur ce qui fait la force de ce modèle aussi en termes d'organisation et de coordination. Vous l'avez dit, Gabriel Coltis. Olivier Jem, vous souhaitiez réagir.
Oui, non, deux petites précisions. On revient vraiment de loin en termes de souveraineté de défense. Il y a les chiffres qui sont tombés hier, les chiffres du CIPRI, donc je me permets. 64% des armes achetées en Europe en 2020, entre 2020 et 2024, sont américaines, contre 55% les cinq années précédentes. Donc on voit que pour l'heure, en tout cas, la tendance était à l'accentuation d'une dépendance face aux États-Unis. Voilà. Et puis, deuxième chose, par rapport à tout ce qui a été dit sur Airbus, on est à l'heure où on se pose des questions sur la souveraineté, sur la place de l'industrie, bon, etc. Airbus, on l'a pas encore dit, je me permets de le souligner, même si c'était une évidence, est vraiment l'archétype de ce que l'Europe sait le mieux faire en termes industriels. Quel autre exemple a-t-on en Europe d'une collaboration industrielle à cette échelle-là. Alors, il y a peut-être MBDA, marchand de missiles, effectivement, mais qui est quand même de moins grande ampleur et qui embauche moins, qui est un peu moins connu. Bon, le MBDA est qualifié parfois dans la communauté de petit Airbus, mais en tout cas, mis à part Airbus, il n'y a pas d'autre exemple. C'est un, à mon sens, je dépasse peut-être le discours du journaliste en disant ça, mais c'est un cas d'école, c'est une opportunité inégalée.
Mais du reste, c'est quasiment devenu un nom commun à lui tout seul. On parle souvent de l'Airbus de la batterie, l'Airbus d'insérer le secteur qui vous conviendra. Mais de fait, c'est érigé en véritable modèle. J'ai juste une petite question, Olivier Jam, sur ces velléités de la part de la Pologne d'entrer donc dans ce fameux capital d'Airbus. Pour le rappel, donc, il y a la France, l'Allemagne, l'Espagne. Qu'est-ce que ça changerait fondamentalement? On pourrait se dire, à partir du moment où c'est un champion européen, déjà pourquoi il n'y a pas tous les pays européens qui sont entrés et pourquoi finalement cette volonté de la Pologne?
Alors là, vous me posez une colle et puis là, c'est pas une émission qu'il va falloir. Ce sera beaucoup plus. Non, j'ai lu ça effectivement pour la Pologne. Bah, dès lors qu'un pays achète énormément d'équipements, il se met bien souvent en position de vouloir prendre un bout de capital d'une entreprise. Donc ça, c'est pas complètement nouveau. Ensuite, pour la Pologne, oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que la Pologne est quand même, je ne suis pas géopoliticien, mais quand même considéré comme extrêmement proche des États-Unis pour tout ce qui concerne les achats d'armes. Alors, je crois qu'ils ont fait une petite exception à ça en achetant, je crois, des chars sud-coréens, si je ne me trompe, il y a quelques mois. Voilà. Est-ce que la Pologne est en mesure de rentrer dans le capital d'Airbus? Honnêtement, c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas la réponse, mais je n'y verrai pas un grand bouleversement. Et si c'était le cas, peut-être, qu'Airbus pourrait céder une production d'un équipement sur le sol polonais. J'imagine que c'est ce qu'il se tramerait. Mais là, j'avance en terrain
de cristal,
un peu inconnu.
On est effectivement dans l'anticipation aussi, d'autant que rien n'est ficelé, rien n'est signé. Donc, ce ne sont que des perspectives d'un avenir plus ou moins incertain. Cela dit, Gabriel Koltis, sur cette perspective-là, et pour revenir aussi sur cet enjeu de gouvernance à travers les grands pays, les grands États membres aussi de l'Union européenne. Alors, on va retracer cette histoire. Très concrètement, aujourd'hui, je le disais, on a la France et l'Allemagne à hauteur de 10,82-83% du capital. Très, très concrètement et très, très simplement, Gabriel Koltis, aujourd'hui, qui participe au capital d'Airbus?
En réalité, ceux qui participent au capital d'Airbus, ce sont des industriels, hein, évidemment, mais ce sont aussi les États. Hein. Il faut pas oublier les participations que les États détiennent, même si l'État allemand s'est retiré formellement. Il n'en demeure pas moins que le capital d'Airbus est donc bien réparti entre des actionnaires privés, les industriels eux-mêmes, et des actionnaires publics, en particulier l'État français. Pour en revenir à la question de la Pologne et à la question de la gouvernance, je pense qu'il est assez logique à un moment donné, lorsque un pays participe à l'activité de production de manière substantielle, eh bien qu'il soit représenté dans les espaces de gouvernance du groupe. Si ça devait être le cas, je trouve que l'hypothèse qui a été avancée par Olivier James est tout à fait cohérente. Hein. Si effectivement une activité substantielle devait être réalisée sur le sol polonais, bien ce serait assez logique en quelque sorte que la Pologne participe à la gouvernance. Mais le problème à ce moment-là, c'est qu'on ouvre évidemment la boîte de Pandore, parce que les activités d'Airbus ne se concentrent pas en Europe uniquement, en France et en Allemagne ou en Espagne. Donc les Italiens pourraient aussi demander une participation dans le capital, vouloir participer à la gouvernance. Enfin voilà, donc là on ouvre un tout petit peu la boîte de Pandore, évidemment.
Mais de fait, vous faites bien de le préciser, Gabriel Koltis, il faut dire que se trouvent sur le sol polonais des structures qui permettent de fabriquer certaines pièces détachées et notamment les harnais des A320 et A330. Donc on comprend qu'il y a un lien très fort aussi entre structure de production et potentiellement structure de gouvernance. On le voit, le contexte est pour le moins fluctuant. Il y a une forme de dynamisme qui s'instaure, alors qu'il ne concerne pas directement Airbus, mais quand même si, d'une certaine manière, à travers sa branche qui est consacrée à la défense. Les choses pourraient changer et rapidement, mais ce qui contraste grandement avec quelque chose de bien plus certain, c'est la publication des résultats du groupe de façon très récente, puisque le 20 février dernier, le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, s'exprimait à leur sujet.
En 2024, nous avons enregistré de fortes prises de commandes dans toutes les entreprises avec un book-to-bill largement supérieur à 1, ce qui confirme la demande de produits et de services. Au quatrième trimestre, nous avons livré 269 avions commerciaux, ce qui a porté nos livraisons pour l'ensemble de l'année 2024 à 766 unités, soit une augmentation de plus de 4% par rapport à l'année précédente. Nous avons enregistré 878 commandes brutes, ce qui confirme la forte demande de produits sur le marché. Notre carnet de commandes atteignait le chiffre record de 8658 avions à la fin de l'année dernière.
En novembre 2020, Olivier Jamme, et ça me fait là une transition entre nos deux sujets, vous couvriez la commande de 38 Eurofighter passés par l'Allemagne à Airbus. Vous disiez alors dans un de vos articles que c'était la défense qui permettait à Airbus de relever un peu la tête. Airbus qui était alors confronté à une crise historique de ses activités civiles. On peut dire que les choses ont bien changé depuis. La barre a été redressée, Olivier Jamme.
Oui, tout à fait. En plus, je me souviens pas du tout avoir écrit cet article. Je vous remercie d'en faire référence. En tout cas, oui, bah clairement, c'est très bons résultats sont tirés très largement par l'activité civile. Pour rappel, l'année dernière, 766 avions livrés. Alors, je vais pas vous couvrir de chiffres, mais bon, là quand même, ceux-là sont importants. En 2020, année effectivement de forte crise dans l'aéronautique civile, on était à 566 livraisons, donc précisément la 200 de plus en 2024 par rapport à 2020. Ceci dit, ces bons résultats ne doivent pas faire oublier que le niveau de livraison aujourd'hui n'a pas atteint celui de 2019. Avant crise, 2019, on était à 863 livraisons d'avions. Là, je m'en arrête là pour les chiffres de livraison. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a une décorrélation entre, d'une part, le transport aérien qui, dans le monde, a très largement repris. Depuis l'année dernière, alors on peut chipoter pour telle ou telle région du monde, mais en gros, pris à l'échelle mondiale, le trafic aérien est revenu à celui d'avant Covid. Pour ce qui est de l'industrie aéronautique, c'est absolument pas le cas. Il y a un retard à l'allumage. On viendra peut-être en détail là-dessus. Mais donc, clairement, c'est les livraisons d'avions qui tirent tous ces bons résultats.
Vous avez parlé des livraisons d'avions, Olivier Jamme. Peut-être un petit point pédagogique pour celles et ceux qui ne seraient pas spécialistes, on va dire, de ce secteur-là. Pourquoi c'est la livraison d'avions qui fait figure d'indicateur de la santé financière d'un groupe comme Airbus?
Parce que c'est au moment de la livraison d'avions que Airbus est payé sur la plus grosse part de la valeur d'un avion. On entre dans c'est vraiment la matrice, quoi, cette histoire-là, parce qu'en fait, les montants des avions ne sont plus donnés par les avionneurs. Ils étaient donnés à une époque, ça fait plusieurs années qu'ils ne le sont plus. Alors, on est toute une bande de journalistes à râler pour leur dire qu'on voudrait avoir les montants. Pourquoi ils ne les donnent pas? Parce que suivant la compagnie aérienne, la relation avec la compagnie aérienne, le nombre d'avions, le type d'avion, etc., etc., le prix d'un avion varie énormément. Voilà. Et puis, pour rappel aussi, en clair, le plus petit de tous les Airbus, c'est l'A220, qui est un petit avion, qui est l'ex-C-Series du Canadien Bombardier, qui a été racheté à la fin des années 2010. Ensuite, j'y vais par ordre de taille, le best-seller, évidemment, l'A320, qui a été mis en service à la fin des années 80, dont la nouvelle version modernisée s'appelle l'A320 Neo. C'est la grande star. Il citait tout à l'heure Guillaume Faury. Alors, j'ai les chiffres plus récents parce qu'on a maintenant ceux de janvier, qu'il n'avait pas encore à ce moment-là. Donc, 8684 appareils chez Airbus dans le carnet de commandes. Dans ces 8684, il y en a 7200 à 320. Donc, vous voyez que c'est vraiment très largement le best-seller. Et ensuite, on a les avions un peu plus grands, la 330, puis la 350. La 380, emblématique que tout le monde connaît, même ceux qui ne connaissent pas trop l'aéronautique, n'étant plus produit depuis quelque temps déjà.
Gabriel Coltis, vous souhaitiez réagir sur notamment ces résultats affichés par Airbus.
Oui, en fait, je souhaitais réagir quant au... à la difficulté que Airbus rencontre aujourd'hui pour répondre complètement à la demande. Alors effectivement, il faut effectivement distinguer les commandes, la production, la livraison. Bon, tout ça prend du temps. Hein. C'est pas parce qu'une commande est passée que 15 jours après l'avion est livré. Hein. Les délais sont évidemment, les délais de production peuvent être très très importants. Dépendent aussi de la taille de l'acheteur, hein, parce qu'évidemment Airbus soigne particulièrement les grands acheteurs et a tendance à livrer plus rapidement les grands acheteurs que les petits.
Okay, Gabriel Coltis, excusez-moi.
Faire attention aussi
Gabriel Coltis, je vous interromps quelques secondes. Est-ce que, pour avoir cette précision-là, est-ce qu'on a un temps moyen de livraison? Typiquement, quand on parle de livraison en 2024, ce sont des commandes qui ont été passées à quelle époque? Est-ce qu'on a un chiffre moyen, même si vous venez de dire que ça varie énormément?
À des compagnies, oui. À des compagnies de moindre importance. Vous m'entendez toujours ?
Oui, Gabriel Coltis, je crois qu'on a été coupé. J'avais juste une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous indiquer le temps moyen peut-être de livraison ? Vous avez dit que c'était très variable en fonction de différents facteurs, mais typiquement, quand on parle des livraisons en 2024, ce sont des commandes qui ont été passées à peu près à quelle époque ?
Ça, c'est une question qui est vraiment difficile parce que ça dépend fondamentalement de la compagnie qui achète. Lorsque la compagnie qui achète s'appelle Air France ou s'appelle Lufthansa, c'est un client prioritaire, évidemment pour Airbus, hein, vu la masse d'achats ou encore des compagnies du Golfe. On peut estimer que le délai de livraison, c'est à peu près trois ans. Hein. Mais pour des compagnies de moins d'importance, ça peut être évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Alors je pense que la difficulté qu'Airbus a rencontrée et continue de rencontrer aujourd'hui pour mettre en chantier précisément les commandes qui lui ont été adressées, c'est que pendant la crise sanitaire et l'effondrement des commandes, en quelque sorte, Airbus a surréagi. Et quand je dis que Airbus a surréagi, ça signifie en clair que Airbus n'a pas hésité à tailler dans ses effectifs de manière très très substantielle. Il y a un chiffre qui a été avancé, qui est un peu difficile à vérifier, de 5000 suppressions d'emplois au moment de la crise sanitaire. Quand vous supprimez 5000 emplois parce que vous réagissez en quelque sorte à une crise comme la crise sanitaire, eh bien évidemment après, mais quand les commandes reviennent, quand il s'agit d'accélérer la production pour livrer davantage, bien vous avez beaucoup de difficultés parce que ces 5000 personnes ont quitté le périmètre de l'entreprise et n'ont pas nécessairement envie de revenir parce qu'ils ont peut-être l'impression qu'on s'est moqué d'eux au moment où c'était vraiment difficile pour tout le monde, pour Airbus, mais aussi pour les salariés. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, bien, il y a des gens que je connais qui me disent mais moi, je ne retournerai jamais travailler chez Airbus parce qu'on a été vraiment trop maltraités pendant cette période difficile. Donc il y a là une difficulté de recrutement chez Airbus qui trouve ses racines, à mon avis, dans la crise sanitaire. Et puis il y a aussi une autre difficulté, on va sans doute en parler, c'est que Airbus pressure énormément ses sous-traitants et cette pression qui est exercée sur les sous-traitants fait que pas mal de sous-traitants ont du mal à suivre en quelque sorte. Hein. Donc il y a des avions qui prennent du retard dans la livraison, eh bien parce que tout simplement telle ou telle pièce n'a pas pu être livrée. Il y a du retard, un retard qui s'accumule. Voilà. Donc entre les difficultés propres à Airbus, qui sont les difficultés liées à ses ressources humaines spécifiques, et les difficultés des sous-traitants, on peut comprendre qu'effectivement, eh bien les livraisons ne soient pas celles que l'état-major d'Airbus a pu espérer.
Mais de fait, Olivier Jamme, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de se dire, alors même qu'on vient de dire que les délais de livraison étaient parfois très longs, on le comprend, l'industrie aéronautique, ce sont des délais très longs et c'est normal, ce sont de véritables monstres qu'il faut assembler. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de se dire, au moindre coup de vent venu sur la conjoncture, bon, en l'occurrence, la crise Covid-19 était un sacré choc.
Une belle bourrasque,
on peut le dire ainsi. Mais est-ce que cette idée de licencier en masse et massivement était vraiment judicieuse dans un secteur tel qu'il est configuré, qui est celui de l'aéronautique?
Alors là, je tempérerai un tout petit peu ce qui vient d'entendre, un tout petit peu. Effectivement, il y a eu des coupes dans les effectifs assez importantes chez Airbus, mais chez tous les autres acteurs de la filière. Hein. Vous regardez chez Safran, chez Thales, partout, ça a été pareil. Et d'ailleurs, il ne faut pas avoir le nez que sur les effectifs France, mais aussi sur les effectifs à l'international. Je ne citerai pas forcément certains groupes, mais au niveau de leur site, par exemple, au Mexique, qui est un grand pays de sous-traitance aéronautique, les réductions d'effectifs étaient bien plus fortes. Deuxième nuance, c'est que on a beaucoup beaucoup moins taillé dans les effectifs de la filière aéronautique française qu'américaine. Tout simplement parce qu'il y a eu un certain nombre d'aides pendant la crise, je pense notamment au PGE, aux prêts garantis par l'État, qui ont fait que un certain nombre d'entreprises ont pu garder en leur sein des salariés grâce à cet argent-là. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve quand même, il y a eu effectivement une baisse d'effectifs, mais également aussitôt de grandes vagues de recrutement. Rien que l'année dernière, sur l'ensemble de la filière, on parle de 25 000 recrutements. Et on parle d'une filière en France avec 210 000 effectifs, c'est-à-dire déjà plus d'effectifs à aujourd'hui qu'avant crise. On était plutôt à 200 000 avant crise. Donc si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on avait avant crise davantage de livraisons qu'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grand manque d'efficacité au sein de la filière. On se retrouve dans une filière aujourd'hui où on est plus nombreux, mais on parvient à livrer moins d'avions, à produire moins d'avions. Et l'explication, elle va être un petit peu, peut-être simpliste, mais moi c'est ce qu'on m'a raconté partout, et encore là aussi le patron de Daher, on n'a pas cité Daher qui est aussi un grand groupe aéronautique en France, un autre avionneur également. On a donc recruté des bataillons de personnes qui venaient d'ailleurs pas forcément de l'aéronautique, c'est une nouveauté, depuis 4-5 ans, il y a vraiment, on a recruté des boulangères. Quand je vous dis ça, c'est factuel, il y a vraiment des gens qui faisaient tout sauf de l'aéro, qui sont venus dans l'aéro. Or, dans l'aéronautique, contrairement à l'automobile, il y a encore, en tout cas au moment de l'assemblage final des avions, hein, pas pour ce qui est de produire des toutes petites pièces, mais pour l'assemblage final, c'est encore très manuel. Vous allez dans les lignes d'assemblage finales d'Airbus, ou qu'elles se trouvent dans le monde, à Toulouse et dans les autres, on voit très 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 peu de robots, quelques-uns, mais très très peu, pas pour placer les immenses éléments de fuselage, de voilure, d'empennage, etc. Ça veut dire que c'est un secteur où il y a encore de la patte humaine. Donc quand on voit des bataillons de jeunes recrues qui arrivent, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des erreurs qui sont faites. Donc s'il y a des erreurs, hop, il faut les rattraper. Et en les rattrapant, on crée du retard, donc on livre moins d'avions. De l'autre côté de l'Atlantique, on les a pas rattrapés, les erreurs.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est exactement ce qui s'est passé avec Boeing.
C'est ce qui s'est passé avec Boeing, mais avec encore de plus grande ampleur, parce que la saignée a été encore plus importante. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'aide de l'État. Et après, ça n'est pas qu'à cause du Covid et de l'État, parce que les problèmes de Boeing, alors ça, on peut encore refaire toute une émission. Si vous voulez, c'est encore une autre histoire, avec des difficultés qui ont été encore plus accentuées avec le Covid. Voilà. Mais donc, je voulais nuancer sur la réduction d'effectifs, parce que on est déjà avec des effectifs plus nombreux, et chez Airbus notamment. Il y a plus de gens chez Airbus aujourd'hui qu'il n'y en avait en 2009. Mais on produit moins d'avions.
Ce qui est intéressant, Gabriel Colti, sur cette réduction d'effectifs, c'est tout de même, et je reviens à mon Airbus Defence and Space, même si on a compris qu'il s'agissait essentiellement d'aviation civile, mais de fait, cette branche-là, on s'est vu imposer en octobre dernier un plan d'économie de plusieurs centaines de millions d'euros, 2500 suppressions de postes. Finalement, comment expliquer cette gestion des ressources humaines dans un secteur où, on vient de le dire avec Olivier Jem, il y a besoin d'une très haut niveau de qualification, que ça reste des métiers très manuels aussi, il y a un savoir-faire qui se transmet ou pas de fait lorsqu'il y a un très fort taux de renouvellement. Comment on explique cette contradiction, Gabriel Coltis?
Alors je pense qu'il y a plusieurs éléments. Hein. Il y a un premier élément pour revenir à la question de l'efficacité ou plutôt de la productivité hein, qu'évoquait Olivier Jam à l'instant. Mm-hmm. C'est pas un problème spécifique à Airbus ou à l'aéronautique. Hein. On constate un léger recul, mais un recul quand même hein, de la productivité du travail dans l'ensemble de l'industrie. Ça pose question, ça interroge véritablement hein, parce que comme un célèbre économiste a pu le dire, on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Donc effectivement, la productivité dans l'industrie française et européenne en général, depuis quelques années, a plutôt tendance à baisser qu'à augmenter. Et c'est une véritable interrogation. Pour quelle raison? Un des éléments qui est avancé et qui rejoint ce qui vient d'être dit, je crois, c'est que l'industrie aujourd'hui recrute des gens qui sont peut-être moins qualifiés et recrute beaucoup d'apprentis. En tout cas, jusque dans un passé récent, l'industrie, et notamment l'industrie aéronautique, a beaucoup recruté d'apprentis, et par définition, ben, quand vous recrutez un apprenti, vous ne pouvez pas attendre de cet apprenti qu'il ait la même productivité que la productivité qu'avait un salarié chevronné que vous avez très malencontreusement licencié parce qu'il y avait un recul des commandes important. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que les choses peuvent s'expliquer. Alors maintenant, s'agissant de, peut-être sur un point important, il a été dit que Airbus a été aidé pendant la crise sanitaire. C'est tout à fait tout à fait exact. Hein. Olivier a évoqué les prêts garantis par l'État, c'est tout à fait juste aussi. Bon, il ne faut pas non plus qu'on ait l'image d'un groupe aéronautique qui serait soutenu à bout de bras, en quelque sorte, par les États européens, alors que le groupe concurrent américain, lui, ne le serait pas. Et évidemment, Boeing reçoit de la part de l'État américain des aides tout à fait substantielles, mais qui ont une autre forme, qui prennent d'autres moyens, d'autres modalités. Mais enfin, je pense que dans les deux cas, les groupes sont, parce que ce sont des groupes stratégiques, hein, très fortement soutenus par les États concernés.
Et on le voit, de fait, les difficultés sont à la fois conjoncturelles et un peu plus structurelles, tout dépend du secteur sur lequel on se penche. Peut-être une dernière question sur cette bonne santé affichée d'Airbus, Olivier Jamme. Dans quelle mesure, parce qu'on a commencé à évoquer le grand concurrent américain Boeing, dans quelle mesure cette très bonne santé financière, elle est rendue possible aussi parce que le contexte fait que Boeing n'est plus vraiment le concurrent qu'il a pu être autrefois. Est-ce que c'est une bonne santé un peu en creux ou par défaut, parce que justement Boeing a connu toute une série d'accidents depuis 2018. 2024 a été une année particulièrement compliquée pour le concurrent américain.
Non, moi je dirais vraiment pas ça. D'ailleurs, poursuivre quand même d'assez près le Airbus depuis une petite dizaine d'années, je n'ai jamais entendu la moindre personne chez Airbus, dirigeant compris, personne, se réjouir de ce qui se passe chez Boeing. Jamais. Je ne l'ai jamais entendu. D'abord, parce qu'ils savent très bien aussi par où est passé leur groupe. Faut pas oublier quand même le lancement de la 320 fin des années 80. Il y a eu un certain nombre de crashs mortels avec la 320. Donc, il y a une grande humilité. Hein. C'est le tour de Boeing. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut tourner. Et ensuite, non, je pense pas qu'ils en bénéficient vraiment, parce que je vous l'ai dit, les livraisons sont très, sont très freinées. Donc il y a pas de bénéfice, on n'en tire pas de bénéfice. Elles sont freinées d'ailleurs pas que pour Airbus, on l'a pas cité, mais je voudrais quand même le dire très vite, parce que c'est un point extrêmement important. Les livraisons, elles sont aussi freinées. Donc, enfin, si ça a été, ça a été un petit peu souligné tout à l'heure par les sous-traitants qui sont à la peine, qui sont pressurisés. Alors, je sais pas si c'est le terme. En tout cas, ils sont fortement sollicités par Airbus et se retrouvent pour certains dans une situation assez difficile parce que d'un côté, on leur dit, vous devez investir pour augmenter les cadences. Oui, bon, vous avez des PGE qui sont d'ailleurs maintenant à rembourser. On l'a dit, un manque d'efficacité. Paf, on rajoute, c'est vrai pour l'industrie aéronautique comme pour toutes les industries, une hausse du coût des matières premières, une hausse du coût de l'énergie, la masse salariale, etc., etc. Tout ça fait qu'un certain nombre de sous-traitants financièrement ne se trouve pas au mieux. On peut citer une étude de la Banque de France qui est réalisée tous les ans pour le compte de la filière qui s'appelle le GIFAS et qui disait qu'en 2024, en prenant les chiffres de 2023, il y avait 40 grands sous-traitants. Là, je ne vous parle pas des petits, hein, tout ça est très segmenté, mais 40 grands sous-traitants qui étaient en risque de défaillance, c'est-à-dire qui n'allaient pas mettre la clé sous la porte, mais qui avaient des difficultés financières. Apparemment, pour avoir interrogé les différents dirigeants des grands donneurs d'ordre français ces dernières semaines, à l'occasion de la présentation de leurs résultats annuels, la situation est en train de s'améliorer. C'est pourquoi Airbus, mais d'ailleurs aussi Safran pour ses moteurs LEAP, ont bon espoir. Espoir que les cadences de production vont vraiment augmenter cette année, dans les prochaines années qui viennent.
Et de fait, la question des sous-traitants ne peut absolument pas être dissociée de ce qui se passe par la suite dans les chaînes d'assemblage de la part d'Airbus. Le 8 novembre 2024, Pascal Farella, directeur général délégué de Mecachrome, leader de la sous-traitance aéronautique et basé lui aussi à Blagnac, s'exprimait lors de la 11e édition de l'Aéroforum.
On a ressenti une sous-performance. Heureusement, il y a des murs qualité dans notre métier, dans nos entreprises, chez nos donneurs d'ordre. Donc les quelques défauts ont été immédiatement identifiés. Par contre, on l'a senti en interne. Donc il a effectivement, on sort d'une période Covid, on a perdu des effectifs, on a rembauché massivement et on a perdu des sachants. Dans cette perte, on s'est aperçu, et dans les analyses à travers nos murs qualité, on s'est aperçu que quelque part, des fois, on ne processait pas assez les étapes clés de nos productions. On faisait trop confiance au savoir de nos salariés. Et donc, il a fallu faire face à ça.
Gabriel Coltis, on retrouve là tous les enjeux qu'on vient d'évoquer, les enjeux de perte d'un certain savoir-faire, du renouvellement de la main-d'œuvre, de processus qui doivent être repensés de fait à cette aune-là. Mais il faut tout de même insister sur un point, là encore plus pédagogique finalement. Quels liens unissent Airbus en tant que gros constructeur aéronautique de tout ce réseau de fournisseurs, de sous-traitants? Très concrètement, comment cela s'organise? Vous avez parlé un tout petit peu plus tôt dans l'émission de la capacité de coordination, mais est-ce que cela fait en soi la marque de fabrique Airbus?
Oui, alors je crois qu'effectivement, c'est la marque de fabrique d'Airbus. Quand on interroge les dirigeants d'Airbus, en fait, ils opèrent une distinction très forte entre leurs sous-traitants, et comme la désignation l'indique, sous-traité, ça signifie quelque part que vous avez un donneur d'ordre qui vous dit ce que vous devez faire, qui vous dit comment vous devez le faire, à quel prix vous devez le vendre. Donc la relation de sous-traitant, c'est une relation souvent de vassalisation, en quelque sorte, de sous-traitant par rapport à son donneur d'ordre. Et à côté de ces sous-traitants qui ont le plus souvent une taille relativement modeste, hein, ça peut aller jusqu'à des tailles plus intermédiaires, vous avez non pas des sous-traitants, mais des co-traitants. Mmh. Certains appellent ces entreprises, je pourrais expliquer pourquoi, des firmes pivots. Ces co-traitants ne sont pas du tout traités de la même manière par Airbus que les sous-traitants. Et ça, c'est un point qui est absolument central. C'est-à-dire que lorsque Airbus discute avec les ingénieurs de Thales, les ingénieurs de Safran, de Pratt Whitney, de Rockwell Collins ou d'autres, en fait, toutes ces personnes co-construisent l'avion. Donc, il ne faut pas oublier que, finalement, lorsqu'une compagnie aérienne achète un Airbus, elle achète un produit dont la valeur totale est égale à 100, mais dont la valeur propre à Airbus, en général, est en moyenne, entre 25 et 30% de la valeur totale du produit. Ça veut dire, en d'autres termes, que Airbus a externalisé, a confié à ses sous-traitants et à ses co-traitants la majeure partie de la valeur de l'appareil. Donc les moteurs représentent une part très importante, les systèmes embarqués représentent une part très importante. Et donc là, vous voyez, il y a deux logiques assez tranchées, en quelque sorte, même s'il y a des entreprises intermédiaires un peu comme la TECOR. La logique de sous-traitance, et là, ce qu'on attend de sous-traitants, c'est qu'ils livrent en temps et en heure au coût le plus faible possible. Doit-il éventuellement délocaliser sa production au Mexique ou ailleurs? Et puis les co-traitants, donc ceux qui vont co-concevoir l'avion, vont le co-construire. Et là, évidemment, la question du prix ne disparaît pas, mais ce qui est très important, c'est la complémentarité des compétences entre les compétences des ingénieurs d'Airbus et puis les compétences de toutes ces entreprises, souvent de grande taille d'ailleurs, qui vont co-construire l'avion. Donc là, il y a vraiment deux régimes qui sont complètement différents.
Gabriel Coltis, on en revient à un point qui est censé être le fil rouge de notre émission, celui de cette localisation à Toulouse spécifiquement. Vous avez dit que l'enjeu était de livrer en temps et en heure. Tout cela peut être facilité par de la proximité géographique. L'INSEE a publié le 13 février dernier un état des lieux, on va dire, qui effectivement montrait que en une quarantaine d'années à Toulouse et dans sa région, le nombre de salariés qui étaient impliqués, on va dire, dans l'industrie aéronautique avait plus que quintuplé entre 1982 et 2022. Très concrètement, Gabriel Coltis, pourquoi cette concentration dans la région toulousaine? Et est-ce que c'est vraiment, on peut voir une forme d'essaimage de la part d'Airbus?
Alors, je crois que ça s'explique en fait assez aisément, mais pour bien l'expliquer, il faut différencier des facteurs que l'on pourrait considérer être des facteurs de localisation et des facteurs qui relèvent de l'ancrage territorial ou de la territorialisation, peu importe la manière dont on l'appelle. Les facteurs de localisation sont des facteurs que on peut retrouver ou pas un peu partout. Si vous voulez produire, il vous faut une offre foncière, il vous faut des infrastructures de transport, des infrastructures de télécommunication. Ça, ce sont des facteurs de localisation. Si ces facteurs n'existent pas, il est évident qu'une entreprise ne peut pas déployer ses activités. Donc, elle ne pourra pas s'implanter ou ne pourra pas se développer si elle est déjà là. Mais s'il s'agit d'analyser maintenant non pas ces facteurs de localisation, mais les facteurs d'ancrage territorial, alors là, on revient en quelque sorte au lien très fort qui existe entre l'organisation industrielle industrielle et l'organisation spatiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Airbus a externalisé une partie très importante de ses activités, de ses savoir-faire, eh bien, Airbus a intérêt à s'entourer à proximité, eh bien, des entreprises qui vont être capables de proposer des solutions, de proposer des compétences qui sont complémentaires à celles d'Airbus. Et précisément, ce qui fait que Airbus est non pas localisé, mais ancré territorialement à Toulouse, c'est que dans l'écosystème toulousain, eh bien, Airbus va trouver l'essentiel de ces compétences complémentaires qui sont nécessaires pour concevoir un avion et pour produire un avion. Quand vous regardez la carte des co-traitants, eh bien, ces co-traitants sont, avec quelques exceptions évidemment, pratiquement tous autour d'Airbus, qui a constitué progressivement à Toulouse un écosystème qui lui permet aujourd'hui, eh bien, de concevoir et produire ces avions. Mais vous voyez, il y a deux logiques différentes. Il y a les logiques de localisation dont j'ai parlé.
Et
les logiques d'ancrage territorial qui articulent organisation industrielle et organisation spatiale.
Olivier Jamou.
Non, juste pour préciser, il ne faut pas oublier qu'Airbus donc, a été créé, je crois, vers fin 60, début 70, ou 70 d'ailleurs peut-être précisément, et s'est niché déjà dans un bien bel écrin aéronautique. Si on aussi se pose la question de pourquoi il y a de l'aéronautique, pas forcément Airbus à Toulouse. Là, ça renvoie à Pierre-Georges Latécoère, ça renvoie à De Voitine, ça renvoie à l'aéropostale. Et d'ailleurs, j'invite, pour être allé le visiter l'année dernière, à aller visiter l'envol des pionniers à Toulouse, qui a conservé la piste d'atterrissage de l'aéropostale avec son petit musée. C'est tout à fait passionnant.
Donc on voit que Toulouse et sa région sont riches de fait de cette histoire, une histoire qui se renouvelle puisque le 13 février dernier, c'est Éric Lombard, le ministre de l'économie et des finances, qui s'est rendu dans la région pour justement prendre la température et faire un certain nombre d'annonces. Alors il nous faut comprendre aussi comment tout cela s'est construit. C'est une question que s'est posée Éric Lombard. D'ailleurs, il dit « L'Europe doit vraiment changer de braquet. On a été en Europe dans une division du travail telle que l'Union européenne a empêché la naissance de géants. Je ne sais pas d'ailleurs comment Airbus a réussi à se fournir. Filer. Il faut absolument, pour jouer à armes égales, que nous soyons dans une capacité de construire des géants européens. C'est justement ce que nous allons tenter de comprendre en partant du centre névralgique de l'industrie aéronautique française, Toulouse. It doesn't leave scars, and it doesn't leave scars on the outside. And they give you the impression it's all money and brack, but the oil they squeeze on the palace they never use on this track. And every extra filter is a fissure, is a crack. And every extra filter is a fissure, is a crack on the inside. All this way to lose another day. Groupe britannique Latin Quartier. Voilà, on parlait d'un champion européen. Peut-être que ce titre est un exemple à lui tout seul aussi de ce que peut produire l'Europe. Vous êtes bien en tout cas à l'écoute de France Culture et nous sommes aujourd'hui à Toulouse, de fait, où le groupe Airbus génère 210 000 emplois indirects et emploie 52 600 personnes. Et nous avons pour guide le journaliste à l'usine nouvelle Olivier Jamme et l'économiste Gabriel Coltis. Olivier Jamme, on s'est arrêté sur cette visite le 13 février du ministre de l'économie et des finances Éric Lombard. Il a notamment promis qu'un certain nombre d'aides allaient continuer à être versées au secteur aéronautique. On est en droit de se demander pourquoi un tel soutien à une telle filière. Est-ce que finalement c'est aussi l'expression d'un savoir-faire français, d'une spécificité française qui est de parvenir justement à s'organiser pour être en mesure de construire finalement un avion quasiment de A à Z sur le sol français?
Ben oui, c'est unique au monde. Alors, à ceci près qu'il y a aussi les États-Unis. Alors, pour être très précis, il n'y a que la France et les États-Unis dans le monde qui sont en mesure de fabriquer tous les aéronefs avec tous leurs équipements. C'est-à-dire tous les avions civils, les avions militaires, les hélicoptères, les jets d'affaires, bon, etc., etc. Il n'y a que deux pays. Et c'est ce qui fait d'ailleurs un peu enrager un certain nombre de dirigeants du secteur. Je suis pas là pour les défendre, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit, eux, ces dernières semaines, en particulier Guillaume Faury, le patron d'Airbus, qui est par ailleurs le patron du GIFAS.
Et le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales.
Exactement. Et qui fustige quelque peu l'accumulation de taxes, de normes, en se proclamant filière d'excellence, en disant si vous ne mettez pas des bâtons dans les roues, comment voulez-vous qu'on continue à embaucher? Comment voulez-vous que l'on arrive à produire des avions, on n'en a pas encore parlé, qui émettent moins de carbone? Or, cette filière dont vous parlez, cette filière d'excellence, est française en particulier, est sans doute la plus apte dans le monde à pouvoir livrer des avions qui émettent moins d'émissions de CO2. Donc, elle se sent des fois un peu blâmée sur fond de plane bashing depuis quelques années. Elle assure qu'elle fait des efforts. Elle, d'ailleurs, a lancé une grande feuille de route pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Il y a un certain nombre de projets, dont on n'a pas le temps de parler, mais voilà, entre l'avion à hydrogène. Même s'il est un petit peu décalé dans le temps, il est
oui, pas... Oui, c'est ce que je veux dire. On a appris récemment que ce projet-là avait été quand même largement repoussé.
Alors repoussé, voilà également. Mais tous ces groupes-là travaillent aussi sur l'électrification et l'hybridation des avions, sur l'adaptation des moteurs à ce qu'on appelle les carburants d'aviation durable, parce qu'ils ne peuvent, à aujourd'hui, utiliser 50% dans leur plein de ces carburants. Donc voilà, c'est toute une filière qui bouge et dont on se demande si, à l'heure où on se pose la question sur la souveraineté européenne, sur la place de l'industrie, dont on peut se demander s'il est utile contrevenir à son activité, disons ça comme ça.
En tout cas, on comprend qu'effectivement, un certain nombre d'annonces, et notamment la baisse du fonds alloué au CORAC, le Conseil pour la Recherche Aéronautique et Civile, là, on est totalement dans ce sujet-là aussi, d'envisager l'aviation potentiellement décarbonée du futur. Donc,
une baisse. Notamment parce que ce fonds de R&D touche aussi un certain nombre de PME, pas que les ronds.
Exactement. Et on en revient à cette logique aussi, finalement, de maillage, d'ancrage régional. Gabriel Coltis, une question. On le disait, il y a cette spécificité française que de savoir construire, un aéronef de A à Z. Très concrètement, qu'est-ce qui est fabriqué à Toulouse? Qu'est-ce qui est importé? Qu'est-ce qui est exporté de Toulouse? Qu'est-ce que cela nous dit finalement de comment ce territoire-là, du fait de cet ancrage régional très fort d'Airbus, parvient à modéliser, sa fabrication, sa production industrielle?
Oui, alors il y a effectivement beaucoup de choses qui sont fabriquées à Toulouse, il y a certaines choses qui ne le sont pas, et il y a beaucoup de choses qui sont incorporées dans les avions, qui sont quand même de technologie américaine. Il faut quand même aussi ne pas oublier que un Airbus comporte une part de valeur dans l'appareil qui résulte de technologie américaine, et les Américains d'ailleurs ne se privent pas de rappeler que si ils considèrent que ces technologies sont des technologies sensibles, eh bien ils ne s'interdisent pas à l'avenir de faire pression sur Airbus. Ce sont des pressions politiques pouvant éventuellement aller jusqu'à un embargo d'un certain nombre de ventes, parce que précisément ces avions incorporeraient des technologies qui sont des technologies américaines. Donc effectivement, la France et les États-Unis, je suis bien d'accord, sont les deux pays qui sont en capacité de produire sur leur sol les avions en question, mais voilà, il faut peut-être nuancer ou compléter ça en se rappelant quand même que les moteurs sont fabriqués par Safran, mais ils sont fabriqués par Safran et General Electric, c'est pas uniquement Safran. Et puis il y a un certain nombre de co-traitants comme par exemple, Goodrich ou Rockwell Collins, qui sont effectivement à Toulouse, mais qui sont de nationalité américaine. Je pense que ça joue un rôle qui est un rôle assez important. Alors, s'agissant peut-être de des aides publiques, moi je pense que effectivement ces aides sont parfaitement parfaitement justifiées, en particulier les aides à la R&D. Bon, la seule chose qu'on peut peut-être regretter, c'est que ces aides ne soient pas davantage évaluées. Hein, et ça, c'est pas un problème particulier à Airbus. Hein, c'est un problème général qui concerne les aides publiques en France. Hein, pas mal de rapports parlementaires pointent le fait que ces aides ne sont pas véritablement évaluées. Si on prend le soutien à la décarbonation, ben, ça va plutôt dans le bon sens, évidemment, mais je sais que Airbus, Safran aussi, a reçu pas mal d'argent, même si les sommes sont pas totalement publiques, pour aller vers l'avion à hydrogène. Mais comme ça a été dit à l'instant, Airbus, très discrètement, début février, a fait savoir que l'avion à hydrogène, ben, c'était pas pour aujourd'hui, c'était pas non plus pour demain, c'était pas non plus pour après-demain. Donc, même si on évite d'utiliser le terme de abandon, il n'en demeure pas moins que là, il y a quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé par l'État pour soutenir le projet d'un avion à hydrogène, dont on ne voit pas exactement quelle va être l'issue. Donc je pense que ces questions d'aide publique mériteraient qu'on s'attarde dessus, qu'on les évalue, et donc que l'on mette en place les outils d'évaluation qui sont nécessaires, y compris lorsqu'il s'agit d'un groupe comme Airbus.
Olivier Jamme, beaucoup de questions. Deux peut-être, si je devais les sélectionner. On a souligné cette spécificité de l'ancrage territorial, de l'ancrage français, mais il y a aussi une autre spécificité qui se dessine, c'est que finalement, Airbus construit aussi aux États-Unis. D'ailleurs, Guillaume Faury en a fait un facteur pour rassurer, on va dire, peut-être notamment les marchés, mais il l'a dit, nous vendons aux États-Unis, nous fabriquons, nous assemblons, nous développons aux États-Unis, comme peu d'autres entreprises. Son groupe ne devrait donc pas être directement impacté par les droits de douane envisagés par Donald Trump. Est-ce qu'il faut croire finalement cette assurance-là? Est-ce que ça fait partie d'une des forces, d'un des points forts d'Airbus?
C'est la grande distinction avec son rival américain, qui produit tout sur place aux États-Unis, quand Airbus a fait le choix depuis une petite vingtaine d'années maintenant, d'avoir, bon, en plus des sites historiques à Toulouse et à Hambourg en Allemagne, un site qui a été ouvert à Tianjin en Chine et à Mobile en Alabama aux États-Unis. Alors effectivement, on peut considérer, pour aller très vite, comme il n'y a plus que quelques minutes, que c'est un véritable cheval de Troie, cette ligne d'assemblage, qui assemble précisément la 320, et à côté, juste à côté, il y a une autre ligne qui est celle dédiée à la 220. Ça constitue effectivement, en ces temps de hausse probable, possible ou hypothétique, je ne sais plus, de taxes douanières, un avantage pour Airbus, à ceci près quand même que, notamment, il y a beaucoup d'équipements qui viennent du Mexique, on l'a dit, notamment pour la 320, Safran est extrêmement implanté au Mexique. Il y a beaucoup d'équipements qui viennent du Canada. Comme je vous l'ai dit, la 220, c'est Cerise de Bombardier. Ça veut dire qu'on va avoir des passages aux frontières au-dessus des deux pays qui sont les plus visés par les États-Unis. Donc au bout du bout, de ce que j'en comprends, et c'est pas évident de bien comprendre avec tous les flux logistiques dans l'aéronautique, et les dirigeants pour l'instant dans l'aéronautique ont été quand même dans la filière française, pardon, ont été là depuis quelques mois très très discrets, très très taiseux. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'au bout du bout, le risque, c'est que ça augmente le prix des avions d'Airbus, donc fabriqués sur le sol américain, parce qu'il va falloir absorber le choc de la hausse des pièces venant du Mexique et du Canada. Or, ces avions produits sur le sol américain sont en grande partie vendus aux compagnies aériennes américaines. Donc je ne vois pas trop l'effet bénéfique, en tout cas pour les États-Unis, pour l'heure. Surtout qu'on ne modifie pas une chaîne logistique, encore dans aucun secteur industriel d'ailleurs, et encore moins dans l'aéronautique, qui est un grand secteur de cycle long. Je vois pas comment on va réimplanter des usines aux États-Unis. Moi, j'ai en tout cas rien vu de ça pour l'instant.
Olivier Jamais, c'était ma deuxième question, celle du plus long terme, mais qui est aussi un horizon plus sûr, plus certain, puisqu'on le sait, les chiffres le disent, le secteur aérien est responsable d'environ 4% des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Le kérosène est une énergie fossiles. On a vu l'hydrogène vert, ce n'est pas pour tout de suite. Et Gabriel Coltis le disait, finalement, il y a relativement peu de contrôle dans les aides, en tout cas peu de contraintes. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui inciterait des grands groupes aéronautiques, comme Airbus, entre autres, à justement changer de fonctionnement, changer de modèle?
L'argent. C'est-à-dire que l'aéronautique n'a pas attendu, on va dire, le plane bashing pour s'ingénier à faire des avions qui consomment moins de kérosène. Alors, peut-être pas, si on regarde ça d'un point de vue cynique, peut-être pas pour la planète au début, mais simplement pour le porte-monnaie. La consommation de carburant pour une compagnie aérienne, c'est environ 30% du coût d'exploitation. Donc une compagnie aérienne entre un vieux coucou qui a 20 ans derrière lui et un tout récent qui va lui réduire, en général d'une génération à l'autre, c'est 15-20% de réduction, donc de son coût d'exploitation, il fonce vers l'avion le plus moderne. Donc je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez, mais si l'industrie aéronautique galope pour faire des avions qui émettent moins de CO2, ok, d'accord, c'est aussi pour par vertu pour l'environnement, mais c'est aussi quand même beaucoup, parce que ça permet aux compagnies aériennes de gagner en compétitivité. Et Dieu sait qu'en termes de rentabilité, c'est bien compliqué dans ce secteur.
Gabriel Coltis, je vous donne le mot de la fin. Est-ce que cette vision sur le très long terme et cette vision notamment d'un secteur aérien décarboné peut-il bouleverser les chaînes de production telles qu'elles se trouvent à Toulouse? Et vous avez 20 secondes pour me répondre.
Alors, la réponse est oui, parce que effectivement, à Toulouse, toutes les compétences ne sont pas réunies pour un avion plus électrique, ne sont pas nécessairement réunies pour d'autres types de motorisation. Voilà, donc effectivement, il pourrait se produire un choc si ces compétences ne sont pas réunies. Je voudrais juste ajouter peut-être que les chaînes de production qui sont aux États-Unis comme en Chine ne livrent pas les marchés extérieurs à la Chine ou aux États-Unis.
Merci
donc,
beaucoup, Gabriel
je ne
Coltis.
Considère pas que ce sont des potentiel chevaux de Troie.
Merci Gabriel Coltis. C'est malheureusement la fin de cette émission. Nous aurons l'occasion de reparler de ce très vaste sujet. Et merci à vous, Olivier Jeanne, d'avoir participé à cette émission.
Merci.